All right. Hey, la pluie, je pense qu'elle est partie. Je sais pas si vous êtes dans un secteur où il pleut présentement. Textez-moi 418-971-1021, 418-971-1021. Mais dans mon cas ici, au-dessus de Le Bourgneuf, il semble avoir une alternance de soleil et de nuages. Puis ça augure bien pour le match Les Capitales de Québec ce soir. Ça va être la soirée boulevard. On va être toute la gang avec vous autres dans le stade municipal. Puis j'aurai le plaisir de faire le lancer inaugural, Pascal.
Oui, t'es-tu prêt?
Oui. C'est 60 pieds, hein, qu'on me dit?
Puis là, je sais pas.
Raider Sports me dit, t'es mieux de la tirer plus haut pour être sûr de 30 que de la tirer trop bas.
Il t'a même dit, si t'as l'impression qu'elle va être trop haute, t'es à bonne place.
Exact! C'est ce qu'il m'a dit.
Oui.
Fait que j'étais un expert, m'a essayé de faire ça. Puis j'espère ne pas faire honte à mon fils qui sera dans le stade ce soir. Ça, c'est ce que
mais
je pense
que tu vas faire honte à ton fils, point. Il est sur le début de la préadolescence. Il faut que tu te le mettes en tête. C'est fini, les beaux jours.
C'est ce que je crains le plus, tu sais, d'arriver pour lancer la balle puis l'échapper en arrière de moi.
Mais tu sais, je veux dire une affaire.
Ou pas me rendre jusqu'au marbre.
Là, on n'est pas vraiment... Tu sais, les gens n'entendent pas ce qu'on dit, là. Mais tu t'es tellement vanté, Yann, dans les dernières semaines, qu'il allait être le premier chez Leclerc Communication à trendre au marbre, qu'il allait avoir un cogne.
Non, ils ont envoyé les Good Weekend. C'est ben, sûr qu'il n'allait pas se rendre.
T'as-tu vu Mathieu Marcotte? Ben, il est quatre fois plus grand, plus gros que toi.
Il est plus en forme comme il était.
Ça, c'est une opinion, en passant.
Ça vient de lui.
C'est pas parce que t'as pas un six-pack que t'es pas en forme, en passant. Mais je trouve que t'es vraiment vanté, t'as pas le choix de réussir. Yann, t'as pas le choix.
On va essayer ça, on va essayer ça. Hey, notre analyste politique préféré est là, c'est Victor Henriquez. Salut!
Salut Yannick, j'espère que tu t'es entraîné finalement, parce que j'avoue que moi avec, je serais stressé que mon fils soit dans les
étranges. Ben c'est ça, ça a l'air qu'il y a une distance de 60 pieds à franchir. Moi, j'ai promis à mon fils Josh Joshua que j'allais descendre la balle à 94 000 à l'heure.
j'espère juste... C'est bon d'en créer les... Tu devrais travailler au gouvernement pour créer des bonnes attentes.
Hey, des grosses attentes auprès des auditeurs, de son propre fils, de ses collègues.
J'espère juste me rendre au marbre pour qu'après, dans la voiture, ben, je pense que je vais y aller à pied ce soir avec Josh parce que je vais prendre un peu d'alcool, mais j'espère juste qu'après, quand on va sortir du stade, je vais être capable d'y faire assez de gaslighting là, pour qu'ils comprennent que la balle allait vraiment à 94 000 à l'heure pour que ça devienne un des plus beaux souvenirs de son père.
Alors, finissant l'émission, Pascal, tu t'en vas dans le parking. Je pense que tu vas capter la balle pour Yannick parce qu'il a besoin de se pratiquer.
Oui. Mais tu comprends, Victor, que j'apprécie Yannick, mais j'apprécie encore plus quand Yannick il se vante puis qu'il réussit pas. Fait que je suis pas là pour l'aider à se pratiquer, mais je ne le huirai pas. On s'est entendu là-dessus. Je vais l'encourager ce soir.
C'est parfait. On a bonne chance, Yannick.
Oui, commission galant, il fait bon de ne pas être Éric Kerr aujourd'hui. Quel genre d'Éric Kerr on va avoir? Est-ce qu'on va avoir quelqu'un qui veut se venger du gouvernement qui l'a mis de côté dans les derniers mois? On va avoir un Éric Kerr qui va être un bon joueur puis qui va tenter de protéger François Legault?
Justement, en parlant d'échapper la balle, hein, quelle bonne transition pour parler d'Éric Kerr, l'ancien ministre de la transformation numérique, où j'espère sincèrement aujourd'hui qu'on ne sera pas à nouveau dans la complainte de l'ignorance et de « je ne sais pas ». Moi, ce que je m'attends aujourd'hui, c'est un Éric Kerr qui va devoir nous expliquer pourquoi il a laissé ce fiasco-là se créer devant ses yeux. Pourquoi il n'est pas intervenu alors que le sous-ministre nous a confirmé qu'il avait le droit de le faire? Et qu'est-ce qui fait que, justement, on s'est retrouvé dans cette situation-là? Alors qu'on avait un ministère de la transformation numérique dont la seule job était, devinez quoi? Assurer une transformation numérique adéquate au gouvernement. J'ai bien hâte de l'entendre. On se rappelle qu'Éric Kerr a perdu son poste de ministre à cause de ce scandale-là. Mais j'ai hâte de l'entendre parce que je pense qu'il y a une occasion aussi de s'expliquer, nous expliquer son rôle, d'expliquer à la commission Galant pourquoi il n'a pas fait les choses qu'il a, comme public, on aurait pensé qu'il allait faire.
Et quelle possibilité il y avait aussi entre ses mains? Là, est-ce que c'était réellement lui le meneur de tout ça? Ou parce qu'il y en a qui sont déchirés dans les analyses politiques comme quoi c'était plutôt son sous-ministre et autres. C'était pas lui, c'était plutôt les gestionnaires aussi du projet et non Éric Kerr. Mais on a beaucoup tapé sur la tête d'Éric Kerr. tantôt, on se coltaillait, Yannick, moi et Denis Gravel, notre collègue, puis on se disait, OK, mais c'est peut-être le temps pour lui d'avoir une rédemption politique. Qu'est-ce que tu y crois?
Ben moi, je pense que s'il arrive justement avec de l'information, s'il n'arrive pas avec le « je ne savais pas » puis qui explique vraiment ce qui s'est passé puis qui explique pourquoi son rôle, il ne pouvait pas le jouer à fond, ben oui, je pense qu'il peut avoir une rédemption politique justement. Parce qu'en ce moment, on attend le ministre qui va nous dire « Hey, vous savez quoi? c'est pas de ma faute, mais voici pourquoi. Ou c'était de ma faute, puis j'aurais dû le faire mieux. Ce qu'on veut, c'est avoir des explications. Moi, j'ai arrêté de compter le nombre de fois que Geneviève Guilbeault a dit qu'elle n'était pas au courant. François Bonnardel était au courant de certaines choses, mais pas d'autres. Et ça m'a tristement rappelé Gérald Tremblay puis ses interventions à la commission Charbonneau, qui n'était au courant de rien non plus. Et j'ai quand même le goût de passer le message aux politiciens de dire, attention, arrêtez de nous dire que vous savez pas, parce qu'on vous paye pour savoir. Comme citoyen, on s'attend à ce que le gouvernement sache, puis on s'attend à ce que les élus sachent, surtout lorsqu'on arrive au scandale. Qu'ils connaissent tous les détails, c'est normal qu'ils ne le sachent pas. Mais quand on arrive à des commissions comme celle-là, quand on arrive à des scandales ou avec des centaines de millions de dollars de dépassement, on s'attend à ce que nos élus sachent. Et quand on dit quand ils disent qu'ils ne savent pas, puis ça s'applique aujourd'hui à Geneviève Guilbeault puis François Bonnardel, peut-être à Éric, mais ça s'applique aussi aux autres partis. Je veux dire, dans tous les gouvernements, on a eu des ministres qui ne savaient pas. Et à chaque fois qu'ils disent ça, c'est l'indice de confiance du public qui baisse. Parce qu'on se dit, si eux ne savent pas, comment moi, comme citoyen, je vais savoir? C'est lui que je mets au gouvernement pour savoir, justement. Alors oui, la rédemption est possible s'il nous arrive avec un discours de « voici ce que je savais, puis voici pourquoi j'ai pas agi, puis voici pourquoi je pouvais pas agir ». Parce que je m'attends à ce que s'il l'a pas fait, c'est parce qu'il ne pouvait pas le faire.
Il semble y avoir un manque de communication grave au gouvernement entre les ministres et leurs employés, et les sous-ministres et leurs employés, ainsi qu'au bureau du premier ministre, le fameux troisième étage. Geneviève Guilbeault, qui s'est sentie dans l'obligation, pendant le temps des fêtes, de se libérer un peu de ce qu'elle avait sur le cœur en écrivant un courriel. Elle ignorait totalement que ça allait être présenté en preuve à la commission Galland, ce qui fait en sorte qu'elle avait répondu à des questions avant en disant non, je ne savais pas qu'il y avait des dépassements de coûts jusqu'à temps que le rapport du vérificateur général sorte, alors que dans son courriel, qui avait été fait un peu avant le temps des fêtes, elle dit clairement qu'elle craint le rapport du vérificateur général parce qu'il va démontrer qu'il va y avoir une hausse de coûts majeurs, puis qu'elle ne veut pas être la seule à prendre le blâme de ça. Gros manque de communication. Puis comment tu perçois Geneviève Guilbeault maintenant là, que tu le veux aller vendredi? Je te dirais pas comment tu perçois le fait qu'elle s'est pris en photo dans la nature samedi en disant « Merci beaucoup, quelle semaine difficile! » Comment tu l'aperçois maintenant?
Tu m'as dit que tu ne dirais pas ça, alors je ne commenterai pas ces photos dans la nature. Et encore une fois, attention à ces élans d'Instagram. On veut des gestionnaires de l'État, on ne veut pas nécessairement des gens populaires sur Instagram. Mais il y a deux choses. La première, c'est que je pense que tu parlais de la culture de communication entre les élus et leurs staffs. Tu sais, moi, j'ai été dans des staffs politiques au début des années 2000. Ça commence à dater un peu, mais je pense pas que la culture ait changé tant que ça. C'est sûr que, comme employé, on apprend beaucoup de choses, puis on a tendance à vouloir protéger nos ministres. Alors, on pose des questions. Mais à un moment donné, on informe notre ministre, surtout quand les dossiers sont de cette ampleur-là. Et l'enjeu qu'on a, c'est que quand on travaille au gouvernement, il y a toute la question de la confidentialité. On traite beaucoup d'informations qui est confidentielle. On a des ententes de confidentialité qui sont signées. On a des obligations de confidentialité. Et à un moment donné, tout ça se mélange. Et c'est là où la question de la transparence devient dure à porter. Pourquoi je dis ça? C'est parce que je pense qu'on a un changement de culture à mettre en place dans les gouvernements. Puis là, ça n'a rien à voir avec le parti politique qui est en place en passant. C'est vraiment une question de dire comment est-ce qu'on va refaire nos structures ou à moderniser nos structures pour s'assurer que la transparence soit la règle numéro un. On est à l'ère d'Internet, on est à l'ère de l'intelligence artificielle, on a accès à plus d'informations que jamais, mais on dirait qu'au gouvernement, l'accès à l'information est toujours compliqué. Ça, là-dessus, il y a certainement un travail à faire, puis j'espère qu'à la prochaine élection, on va entendre des politiciens parler de ça. Ouais. Parce qu'on a beaucoup parlé de données ouvertes au niveau municipal, mais moi, je pense qu'il faut qu'on commence à parler d'ouverture au niveau du provincial. Ça va aider aussi le staff politique à comprendre que plus tu informes ta ministre, plus tu la protèges. Parce que si elle ne sait pas, ben à ce moment-là, elle ne peut pas réagir. Et finalement, pour commenter ce que Geneviève Guilbeault a écrit au premier ministre, il y a un truc qui est essentiel, c'est que aujourd'hui, tout finit par se savoir. Et c'est sûr que c'était très risqué de sa part de dire qu'elle ne savait pas alors qu'elle envoyait un courriel au bureau du premier ministre. Je pense sincèrement qu'elle l'a fait avec une intention de protéger soit le premier ministre ou de se protéger elle-même. Mais ce n'est jamais le bon réflexe de ne pas dire les choses telles qu'elles sont. Cette culture de la transparence-là, il faut qu'elle s'installe dans le gouvernement. Et ça va passer par tous les partis qui prennent ça en considération, mais aussi beaucoup par la modernisation de nos fonctions, nos façons de fonctionner auprès des fonctionnaires. Nos règlements, nos lois doivent être écrites pour obliger la transparence. C'est une grosse transformation. elle risque d'être moins chère que la consommation numérique, par exemple.
Mais il y a beaucoup de choses, énormément de choses dans ce que tu dis, par rapport à la transparence au gouvernement provincial ou en politique. À la base, j'ai l'impression que c'est tellement rendu une histoire d'image, de contenant au lieu de contenu. On est toujours en train plutôt d'avoir un exercice de communication au lieu d'avoir un exercice de transparence. C'est rendu particulier, c'est même sur les pancartes électorales, on cherche des candidats vedettes, pas nécessairement un CV étoffé. Ça vient avec le fait que est-ce que tu penses que la politique devrait être divisée en deux? Tu as un politicien qui va se présenter, mais sous une bannière où ça va être extrêmement restrictif, puis on va lui demander de ne pas aller contre son parti. C'est sûr qu'il faut une cohésion, mais quand même, de pas avoir des opinions différentes, même au sein de la coalition Avenir Québec, qui est un regroupement de plein de politiciens avec des visions différentes, de partis différents qui se sont regroupés. On a demandé à ce qu'on se range derrière François Legault à de nombreuses reprises, juste avec le projet de troisième lien. Ça amène pas beaucoup de possibilités de transparence, là.
Ben, tu sais, moi, je fais beaucoup le lien entre la transparence et l'authenticité, puis je pense qu'on est capable, justement, d'avoir des politiciens plus authentiques et plus transparents. Je pense qu'au contraire, plus les gens sont transparents dans ce qu'ils pensent, dans ce qu'ils ressentent, plus le public leur fait confiance. Parce que ça revient à cette question-là. La communication, là, c'est quoi? C'est transmettre des messages dans le but de créer une perception. De créer une perception de quoi? De confiance. Ce qu'on veut, c'est que les gens nous fassent confiance dans notre gouvernement. Mais pour que les gens te fassent confiance, il faut que tu sois toi-même. Il faut que tu sois authentique. Et c'est là où, quand je parle de culture, c'est que je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est vrai que ça peut sembler compliqué à premier regard de se dire, OK, on va être transparent sur tout, mais il y a la ligne de parti, il y a les intérêts. En même temps, il y a aussi des valeurs communes. Puis oui, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a une solidarité qui doit s'installer dans un parti, comme elle s'installe dans une entreprise, en passant, là. Lorsqu'on travaille dans une entreprise, on va pas aller déblatérer contre son entreprise à chaque fois qu'on sort de ses murs.
Ça, c'est normal.
Il y a une question aussi de... Il y a une façon de travailler, mais c'est pas parce qu'on peut pas tout dire tout le temps qu'on peut pas être transparent, surtout sur le factuel. Puis à un moment donné, quand je parle de transparence aussi, c'est que ça vient protéger les politiciens. Parce que là, il y a beaucoup d'informations sur sa clique, où est-ce qu'on se demande jusqu'où ça s'est rendu aux oreilles du ministre. Et quand on est transparent sur l'information, ben à ce moment-là, l'information, elle devient toujours plus disponible. Et là, on arrête d'avoir des gens qui vont filtrer l'information, parce que ça reste que il est fort possible que dans le cas de la ministre Guilbeault, dans le cas du ministre Bonnardet ou dans le cas du ministre Kerr, par exemple, même dans le cas du premier ministre, qu'on peut entendre à la commission, l'information ne se soit pas rendue à eux. Et c'est correct que ce le soit, mais elle aurait dû se rendre à un moment donné. Peut-être pas au début du dossier, mais à un moment donné, lorsqu'on arrive devant un scandale de cette ampleur-là, ben, on est en droit de se poser cette question-là. Sachant aussi que, tu sais, moi, j'ai été staff politique. Il n'est pas formé pour être staff, là. T'as pas des études universitaires longues, t'as pas une longue formation quand tu deviens staff politique. T'apprends beaucoup sur le tas. Et c'est pour ça aussi qu'il faut que les bases de transparence soient là, parce que sinon, tu peux aussi faire des erreurs. L'erreur, je dis souvent, c'est le privilège de celui qui essaye, mais ça reste que dans ce cas-ci, on a l'impression qu'il y a beaucoup de filtres qui étaient installés entre les ministres et l'information.
Mais en le sachant pas, ils se permettent de pas être tôt la cible dans une commission comme la commission Galland. Et tu réfléchis ça depuis la commission Charbonneau?
Ben, c'est sûr que depuis Charbonneau, ça a réfléchi beaucoup, puis j'espérais que ça avait évolué, mais je t'avoue que j'ai l'impression que la pandémie nous a peut-être amenés là-dedans aussi, puis on n'a pas parlé beaucoup cette semaine. Moi, c'est quelque chose qui m'a frappé, c'est que peut-être tout ça arrive en 2020, 2021, 2022, à une époque où on se préoccupait de pandémie seulement et pas de tout le reste. Alors, il y a aussi ce contexte-là, je pense qu'il faut pas l'oublier dans le cas Saclic, c'est qu'on est d'ailleurs dans une période où le gouvernement a été concentré sur la crise la plus grande de son histoire. Et non pas sur tout le reste. Je pense que si on avait été dans une situation normale, on aurait aussi probablement été plus ouvert ou transparent sur certains éléments et on aurait probablement pu arrêter le train plus rapidement que ce qu'on l'a fait dans le cas de Saclic. Il y a une question de contexte aussi qu'il ne faut pas oublier dans cette situation-là.
Le danger de voir le premier ministre François Legault se présenter à la commission Galland, je pense, du danger pour le parti en général, c'est quoi? T'sais? Parce que visiblement, ils ne font pas d'efforts pour l'aider à ne pas y aller. Là. Lui, il a dit que si on lui demandait, il allait aller faire un tour. Il ne semble pas craindre le pire, mais ça se peut-tu qu'on y fasse ce qu'on a fait à Geneviève Guilbeault, qu'on sorte des lapins du chapeau en disant « Ouais, regardez, vous avez écrit une lettre au premier ministre au mois de décembre, puis Geneviève Guilbeault, visiblement, n'avait pas été informée là, de ce courriel-là qui allait être lu et vu au-dessus de tout le monde. » Ça va être quoi, un François Legault à la commission Galland? Les risques qu'il peut encourir?
Alors, le risque pour François Legault d'y aller, c'est d'avoir l'air, je me le répète, là, mais d'un Gérald Tremblay, d'un chef de gouvernement qui ne savait pas ce qui se passait. D'un chef de gouvernement qui n'avait pas accès à l'information, parce que même si dans la machine gouvernementale, où le premier ministre ne peut pas être au courant de tout, c'est plutôt normal que le premier ministre n'était pas au courant de ces détails-là. La réalité, c'est que face au public, le premier ministre est imputable aux yeux du grand public, aux yeux de ses électeurs. C'est le grand danger de se présenter à cette commission-là, c'est de ne pas avoir l'information nécessaire pour être capable de répondre aux questions du commissaire et de se retrouver dans une position où est-ce qu'il a l'air de plaider l'ignorance. Et là, quand on plaide l'ignorance, on perd la confiance du public. Donc ça, c'est le plus grand danger pour moi, mais il y a aussi maintenant un danger énorme à ne pas se présenter à cette commission-là. M. Legault a dit au début de l'été qu'il était très ouvert, qu'on allait faire la lumière, qu'il allait aller de l'avant, qu'il voulait savoir ce qui s'était passé. Ouais. Ben, à ce moment-là, si on le convoque, il ne peut pas refuser d'y aller non plus, parce que là aussi, en termes réputationnels, ce serait catastrophique. Moi, je reviens sur la question de la transparence. À partir du moment où tu décides que la transparence est ta première valeur, tu vas à la commission, tu dis ce que tu savais et tu laisses les citoyens faire leur idée. C'est le conseil que j'aurais pour François Legault. On n'est plus dans une position où est-ce qu'on peut essayer d'influencer la perception du public. On est dans une situation à ce moment-ci avec la commission Galland où est-ce qu'on doit donner de l'information au public et ensuite on doit les laisser se faire leur opinion. C'est pour ça que la commission a été créée. Puis pour moi, le premier ministre n'a plus le choix s'il est convoqué. Maintenant, est-ce qu'il sera convoqué? Encore une fois, la commission ne veut pas non plus devenir ce qu'on appelle, excusez-moi l'expression, un shit show. L'idée, c'est que si le premier ministre est convoqué, c'est parce qu'on a des questions, on a une utilité à sa présence, parce qu'on considère que pour les travaux de la commission, la présence du premier ministre va éclairer le commissaire sur certains aspects. À ce moment-là, on invite le premier ministre. C'est pas nécessairement pour l'entendre se planter qu'on a vu le premier ministre. Alors ça,
mais aussi, c'était ça qui faisait la différence avec Jean Charest dans la commission Charbonneau, parce qu'on disait qu'on n'avait pas besoin de lui à un moment donné. François Charbonneau était revenu là-dessus des années plus tard en disant « Je sais que vous vouliez Jean Charest et vous vouliez son témoignage, mais ça n'aurait rien donné, ça aurait même entaché certaines enquêtes. » Tu partages un peu cette opinion-là?
C'est exactement cette opinion-là, parce que justement, lorsqu'on fait une commission d'enquête, là où la commissaire a la responsabilité de déterminer que les gens qui l'invitent ne sont pas là pour donner un choix à la télévision, ils sont là pour répondre à des questions qui vont permettre au commissaire de faire des conclusions, des recommandations et de remettre un rapport qui soit complet. La commissaire Charbonneau avait déterminé que ce n'était pas nécessaire dans ce cas-ci. Le commissaire Galland aura à prendre la même décision. Moi, j'ai hâte de l'entendre, parce que très honnêtement, je ne sais pas à quel point c'est utile à ce moment-ci de recevoir François Legault dans le cadre de l'information qui circule. J'ai bien hâte d'entendre la justification, parce qu'elle va être essentielle, la justification. Si la justification est bonne, le premier ministre n'aura pas le choix, mais si la justification semble bancale, peut-être qu'il y aura une possilité de refuser. Ça semble pas être sa posture, par exemple. Ouais. Ça là-dessus, bravo à François Legault. C'est pas un homme qui s'est souvent caché en passant. Ça là-dessus, c'est une de ses grandes qualités. D'ailleurs, sa popularité a surtout été basée autour du fait qu'il reconnaissait ses erreurs, qu'il était très transparent, plus authentique peut-être que certains, qu'on est habitué à d'autres politiciens. Donc sa posture en ce moment, c'est si on me demande d'y aller, je vais y aller. Bravo pour ça. Maintenant, il faut se préparer, par exemple, parce que les risques sont importants.
OK. Monsef de Raji, député du Parti libéral, fait vraiment une belle job, là. Du côté du Parti québécois, c'est Pascal Paradis qui fait vraiment une belle job. En fait, je pense qu'à la rentrée parlementaire, ils vont frapper à coups de masse sur le gouvernement avec tous les arguments qu'ils sont en train d'accumuler. Ils vont probablement dire, est-ce que le gouvernement est encore légitime de gouverner? Est-ce qu'ils peuvent demander la tête de François Legault?
Ils vont demander la tête de François Legault, ils vont demander la tête du gouvernement, mais ils vont la demander aux citoyens, parce que il y a quelque chose qui va se passer d'ici la rentrée parlementaire. Hein. Le 16 septembre, on rentre en chambre, on s'attendait à un remaniement ministériel la semaine prochaine, mais là, ce sera à voir. Si François Legault s'en va en commission, le remaniement, je le ferai après, pas avant. Donc là, on va voir comment est-ce que ça arrive, mais c'est sûr que François Legault joue toutes ses dernières cartes en ce moment. Ouais. Et les oppositions, elles ont une occasion extraordinaire. Imaginez comment c'est pour l'opposition qui a besoin de trouver une raison pour que les Québécois ne fassent plus confiance au gouvernement actuel. Parce qu'on le dit souvent, avant de se faire élire, il faut d'abord convaincre les gens de changer de gouvernement. C'est la première étape. Et là, on voit que la volonté de changement est de plus en plus grande, mais imaginez comment ça représente une occasion extraordinaire de communication que d'avoir un gouvernement qui est mis sous pression par une commission comme la commission Galland, parce que la gestion d'un dossier a été mal faite. Sachant que la CAQ a été élue en disant « Nous serons des bons gestionnaires ». Alors, pour définir son opposant, pour Monsef de Raji et pour Pascal Paradis, cette commission-là, c'est du bonbon. Et ils vont continuer à faire ça en chambre. Donc, ça va être le relais en chambre de ce qu'ils ont là. Alors, attendez-vous à ce qu'il demande la tête à peu près de tout le monde. Le premier ministre, parce qu'il n'aura pas choisi les bonnes personnes, mis les bonnes personnes en place. Chacun des ministres impliqués, est-ce qu'ils seront encore ministres après le remaniement? C'est une question qui se pose. Mm-hmm. Et là, l'opposition va jouer le supplice de la goutte pendant toute la prochaine année sur le gouvernement, avec la commission Galland, jusqu'à ce que le rapport de la commission Galland soit remis. Et rappelez-vous que le vérificateur général fait en ce moment une analyse sur la filière batterie. Et on s'attend à ce qu'il dépose son rapport en mars prochain. Si le rapport est négatif, le supplice de la goutte va se poursuivre. C'est pour ça qu'il y a eu des rumeurs, d'ailleurs, au mois de juin, je veux vous le rappeler, il y a eu des rumeurs comme quoi François Legault pourrait peut-être déclencher des élections à l'automne. Parce qu'on sait que cette année-là va être très difficile. Il y a mon chef d'Éragie, Pascal Paradis, en face. Il y a surtout Marois Risky et Paul Saint-Pierre-Plamondon en face de lui qui vont être ses opposants en chambre. On est dans une année préélectorale, mais ça va être extrêmement dur pour François Legault. Et c'est là où tous les analystes le disent, hein, se relever pour François Legault, c'est un parcours extrêmement chaotique. Parce que la volonté de changement, c'est la chose la plus dure à battre. Une fois que les gens veulent changer de visage au gouvernement, c'est très, 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 très dur de les faire changer d'idée, surtout dans le contexte actuel.
Est-ce que ça pourrait aider la CAQ si François Legault annonçait son départ au début décembre, exemple?
Ce serait probablement trop tard parce qu'à la CAQ aussi, c'est une coalition, hein, donc c'est difficile. Est-ce qu'on trouverait à la CAQ un sauveur à la Mark Carney comme le Parti libéral l'a fait? Ce serait la seule possibilité. Si rendu au mois de décembre, on est encore dans des chiffres anémiques autour du 15, 16, 17% pour la CAQ. Ce serait de voir est-ce qu'ils ont un Mark Carney pour venir changer la donne et venir sauver les livres. Mais François Legault n'a pas le goût de partir. Il l'a dit à plusieurs reprises, il n'a pas envie de partir, il ne sent pas ce besoin-là. Et il y a une chose qui est claire, c'est que les 90 députés de la CAQ, 89 ou 86, excusez-moi le chiffre qui reste, c'est 86 qui reste, la majorité doit leur job à François Legault. Alors, il a cette force-là sur son parti parce qu'il a amené le parti où est-ce qu'il est. Il va décider le moment où il va partir. Et ce moment-là lui appartient à 100%. Moi, je pense que s'il avait à partir, il l'aurait probablement déjà fait. Puis s'il le fait en décembre prochain, c'est parce que ça va prendre un homme providentiel à Mark Carney pour la CAQ. Est-ce que cet homme-là existe au Québec? C'est une grande question qui se pose, puis je vous avoue que j'ai pas la réponse à ce moment-là.
Ben, moi, je te confirme qu'il existe. C'est juste qu'il fait de la radio le matin, il fait de la télé sur l'heure du midi, puis il est très satisfait de travailler encore chez Québécois.
Et ça a l'air qu'il a dit souvent qu'il ne retournerait pas. Exactement. J'ai entendu cette rumeur. En passant, ça, c'est une rumeur ou un fantasme. Je ne sais pas si c'est un fantasme ou une rumeur, mais je l'ai entendu à peu près à toutes les semaines dans les deux dernières années. On ne donnera pas son nom, mais les gens qui nous écoutent l'ont deviné. Est-ce que c'est lui, l'homme providentiel? Très honnêtement, c'est peut-être le seul nom qui peut changer la donne.
Exact.
Mais encore là, il faudra voir si les sondages seront intéressants. Est-ce que l'EG va faire un sondage au mois de novembre avec le scénario où cet homme-là sera à la tête de la CAQ? Est-ce que ça change les intentions de vote? C'est là où on verra peut-être qu'il se passe quelque chose en coulisses. Mais moi, tant que j'ai pas vu un sondage là-dessus, je me dis que c'est plus un fantasme de certaines personnes qu'une rumeur réelle.
Parce que je suis plus sûr qu'il y a tant de gens qui vont vouloir se présenter à la tête de la Coalition Avenir Québec si François Legault annonce son départ. Pour ce qui est de Geneviève Guilbeault, est-ce que c'est la solution de se présenter dans les prochains mois comme futur chef de la Coalition Avenir Québec? Je pense pas. J'imagine qu'elle va aller faire un tour dans les médias pour se faire oublier. Bernard Drainville, c'est très, très difficile là, depuis son arrivée à son retour en politique.
Mais c'est un peu éclipsé.
Christian
là,
Dubé a mentionné encore hier à la télé, je l'écoutais en entrevue, a mentionné que ça ne l'intéressait pas un autre mandat, donc c'est terminé pour lui. Il reste plus grand monde, là.
Oui, il reste plus grand monde, puis c'est un peu l'échec de la troisième voie, hein, parce qu'on se rappelle, hein, François Legault avait réussi à faire élire cette troisième voie, ce parti différent, puis là, regardez comment est-ce qu'on est en train de revenir dans des habitudes, hein, qui sont celles des Québécois depuis 50 ans. Donc, avec un Parti québécois, un Parti libéral en tête, ça s'alterne. Là, c'est le PQ qui est en tête. Le Parti libéral est deuxième aux alentours de 30 % du vote, 26 à 30. Puis la CAQ est à 15 % parce qu'on était à peu près à la DQ dans le temps. Alors, on revient dans des zones très naturelles. C'est là où est-ce que, justement, M. Legault va continuer sa réflexion. Mais s'il a décidé de rester, il va pouvoir le faire. Et pour les autres qui veulent succéder, ben ça va être la bataille après l'élection. Mais pour l'instant, c'est vraiment soit François Legault, soit l'homme ou la femme providentielle. Je ne pense pas que la solution de la CAQ vienne de l'interne à ce moment-ci, même si M. Legault décide de quitter au mois de décembre prochain. Là. Je pense que un peu comme ce qu'on a vu avec Justin Trudeau, c'est quelqu'un de l'externe qui représente le profil parfait dans le contexte idéal. Mark Carney est encore populaire au Canada. Pourquoi? Parce que son expérience, son expertise et son histoire de vie représentaient à peu près le profil idéal dans le contexte qu'on vivait à ce moment-là.
Ouais, ça a été très opportuniste et ça a fonctionné.
Ouais, il y avait un
ennemi. Sans qu'il le souhaite, il ne l'a même pas vu venir lui-même.
Il y avait un ennemi à abattre l'autre côté aussi. Là, actuellement, à la Coalition Avenir Québec, il n'y a pas de grand ennemi à abattre l'autre bord.
Ben, c'est exactement ça. Sauf qu'en même temps, est-ce que justement, on n'a pas, on a peut-être un peu oublié dans tous ces scandales de Saclay et tout ça, toute la question économique.
Ouais.
Moi, il y a une chose qui me surprend, c'est que je continue à penser que l'économie québécoise va pas bien. Ce matin, on apprenait une baisse du PIB encore.
Encore, ouais.
L'économie québécoise va pas bien. Donc, si elle ne va pas bien, est-ce que notre prochain gouvernement ne devrait pas justement être un gouvernement économique? Puis je trouve que dans tous les partis, on a de la misère à nous parler d'économie en ce moment. Puis on a de la misère à nous parler de justement amener les spécialistes en économie. Je m'attends d'ailleurs ça du prochain remaniement de François Legault, à ce que ce soit un remaniement qui tourne vers l'économie. Parce que vers l'identitaire, la CAQ n'a pas de gain à faire contre Paul Saint-Pierre-Plamondon, ça j'en suis convaincu.
On est encore dans une manne d'or pour le Parti libéral qui était vraiment à décrépitude dans les dernières années. S'ils veulent revenir en force, il n'y a pas meilleure porte qu'en ce moment.
C'est là que ça se passe. Puis Pablo Rodriguez était sur le terrain cet été, on l'a moins vu. Va falloir qu'il sorte, par exemple. Parce que ça aussi, c'est quelqu'un qu'on connaît pas beaucoup. Et ce qu'on en connaît, c'est son histoire avec les libéraux fédéraux. Il faut qu'il vienne créer son identité propre face aux citoyens québécois. Et la prochaine année doit lui servir à ça. Donc ça, c'est un terrain, comme tu dis, Pascal, c'est extrêmement fertile pour les libéraux. Mais c'est un terrain fertile s'ils s'en vont sur l'économie, sur la centre-droite. C'est pas un terrain fertile s'ils s'en vont au centre ou à gauche. S'ils s'en vont au centre ou à gauche, Éric Duhem va venir chercher ce terrain-là. Donc il y a de la place. En ce moment, il y a de la place dans la centre-droite économique. On verra qui va la prendre. La CAQ est là. Les libéraux pourraient y être. Le Parti conservateur de Éric Duhem pourrait y être également.
Victor Henriquez, analyste politique, c'est toujours un plaisir en espérant te reparler dans les prochaines semaines.
Merci encore pour cet été, puis au plaisir de vous reparler bientôt.
Salut, bye-bye. T'es notre favori, oublie-le jamais. Salut.
Merci, puis bonne chance pour le lancer.
Salut, bye-bye.
On va te filmer.
Faut que je me rende au marbre. Non, vous filmez pas.
Mais
ça.
Mais c'est sûr, c'est filmé. Hé, hey, Yannick, quand c'est quoi l'expression que disaient les jeunes au primaire, là? Quand on pète plus haut que le trou, en tout cas, une affaire de même, là.
Je la descends crache au marbre à 94 000
crache en l'air, ça t'entend dans la face. Ouais, je te souhaite que ça fonctionne, je te le jure.
Puis tu sais, il a parlé du Parti conservateur d'Éric Duhem, là, pour ce qui est des prochaines élections, un profil économique et tout ça. Ça aussi, il va falloir que le Parti conservateur travaille là-dessus, tu sais, montrer qui est ministrable, advenant le cas où un jour, dans quelques années, le Parti conservateur du Québec pourrait peut-être prendre le pouvoir. Ça va être qui, le ministre de la Santé? Karim El Ayoubi? Ben, montre-le plus souvent, Karim El Ayoubi. Ça va être qui, le ministre des Finances? Ça va-tu être Adrien Pouliot? Ben, si c'est le cas, je pense pas que ça intéresse Adrien, bien honnêtement. Là. Il y a pas mal ces trucs à gérer. Mais si c'est le cas, qu'il nous le montre. T'sais. Montrer que tu as un parti qui est assez solide. Puis dans le cas du Parti libéral, à part Marois Risky, c'est assez tranquille ces temps-ci. 13h06, 418-971-1021. On fait une courte pause si vous avez des choses à nous dire. C'est par texto.